Qui est Arsène Lupin par Maurice Leblanc. Comment est né Arsène Lupin? Tout un concours de circonstances. Non seulement je ne me suis pas dit un jour « je vais créer un type d'aventurier qui aura tel et tel caractère », mais je ne me suis même pas rendu compte tout de suite de l'importance qu'il pouvait prendre dans mon œuvre. J'étais alors enfermé dans un cercle de romans de mœurs et d'aventures sentimentales qui m'avaient valu quelques succès, et je collaborais d'une manière constante au Gil Blas. Un jour, Pierre Lafitte, avec qui j'étais très lié, me demanda une nouvelle d'aventure pour le premier numéro de Je sais tout qu'il allait lancer. Je n'avais encore rien écrit de ce genre, et cela m'embarrassait beaucoup de m'y essayer. Enfin, au bout d'un mois, j'envoyai à Pierre Lafitte une nouvelle où le passager d'un paquebot de la ligne Le Havre-New York raconte que le navire reçoit au large et en plein orage un sans-fil annonçant la présence à bord du célèbre cambrioleur Arsène Lupin qui voyage sous le nom de R. À ce moment, l'orage interrompt la communication. Inutile de dire que la nouvelle met tout le transatlantique sens dessus-dessous. Des vols commencent à se produire. Tous les voyageurs dont le nom commence par un R sont soupçonnés. Et c'est seulement à l'arrivée qu'Arsène Lupin est identifié. Il n'était autre que le narrateur même de l'histoire, mais comme son récit était fait d'une façon toute objective, aucun des lecteurs, paraît-il, n'avait pensé un instant à porter ses soupçons sur lui. L'histoire fit du bruit. Pourtant, lorsque Lafitte me demanda de continuer, je refusais. À ce moment-là, les romans de mystère et de police étaient fort mal classés en France. J'ai tenu bon pendant 6 mois, mais malgré tout, mon esprit travaillait. D'ailleurs, Lafitte insistait, et lorsque je lui faisais remarquer qu'à la fin de ma nouvelle, j'avais coupé court à tout développement ultérieur, en fourrant mon héros en prison, il me répondait tranquillement « Qu'à cela ne tienne, qu'il s'évade !» Il eut donc un second compte où Arsène Lupin continuait à diriger des opérations sans quitter sa cellule, puis un troisième où il s'évadait. Pour ce dernier, j'eus la conscience d'aller consulter le chef de la sûreté. Il me reçut très aimablement et s'offrit à revoir mon manuscrit. Mais il me le renvoya au bout de 8 jours, avec sa carte et sans un commentaire. Il avait dû trouver cette évasion complètement impossible. Et depuis, je suis le prisonnier d'Arsène Lupin. L'Angleterre, d'abord, a traduit ses aventures, puis les États-Unis, et maintenant, elle court le monde entier. L'épigraphe Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, ne m'est venu à l'esprit qu'au moment où j'ai voulu réunir en volume les premiers contes, et qu'il m'a fallu leur trouver un titre général. Un de mes plus efficaces éléments de renouvellement pour les aventures d'Arsène Lupin a été la lutte que je lui ai fait soutenir contre Sherlock Holmes, travesti en Herlock Holmes. Je peux néanmoins dire que Conan Doyle ne m'a nullement influencé, pour la bonne raison que je n'avais encore jamais rien lu de lui lorsque j'ai créé Arsène Lupin. Les auteurs qui ont pu m'influencer sont plutôt ceux de mes lectures d'enfants. Fenimore Cooper, Assolan, Gaboriau et plus tard Balzac, dont Le Vautrin m'a beaucoup frappé. Mais celui à qui je dois le plus et à bien des égards, c'est Edgar Poe. Ses œuvres sont à mon sens les classiques de l'aventure policière et de l'aventure mystérieuse. Ceux qui s'y sont consacrés depuis n'ont fait que reprendre sa formule, autant qu'il peut être question de reprendre sa formule à un génie. Car il savait, lui, comme nul ne l'a jamais tenté depuis, créer autour de son sujet une atmosphère pathétique. D'ailleurs, ceux qui lui ont succédé ne l'ont généralement pas suivi dans ses deux voies, mystère et police. Ils se sont orientés surtout vers la seconde. Ainsi, Gaboriau, Conan Doyle et toute la littérature qu'ils ont inspirée en France et en Angleterre. Pour moi, je n'ai pas cherché à me spécialiser. Toutes mes œuvres policières sont des romans mystérieux, toutes mes œuvres de mystère sont des romans policiers. Je dois dire que mon personnage même m'y a conduit. La situation n'est en effet pas la même suivant que le personnage central est le bandit ou le détective. Lorsque c'est le détective, cela présente cet intérêt que le lecteur ne sait jamais où il va, puisqu'il est du côté du détective qui se trouve en face de l'inconnu. Au contraire, lorsque le récit tourne autour du bandit, on connaît d'avance le coupable, puisque c'est justement lui. D'autre part, j'ai dû faire d'Arsène Lupin un héros double, un homme qui soit à la fois un bandit et un garçon sympathique, car il ne peut y avoir de héros de roman qui ne soit sympathique. Il fallait donc ajouter à mon récit un élément humain, pour faire accepter ces cambriolages comme des choses très pardonnables, sinon toutes naturelles. D'abord, Ils volent beaucoup plus par plaisir que par avidité. Ensuite, ils ne dépouillent jamais des gens sympathiques. Ils se montrent même parfois très généreux. Enfin, ces exploits malhonnêtes sont souvent expliqués en partie par des entraînements sentimentaux qui lui donnent l'occasion de faire preuve de bravoure, de dévouement et d'esprit chevaleresque. Dans Conan Doyle, Sherlock Holmes n'est animé que du désir de résoudre des énigmes, et il n'intéresse le public que par les moyens qu'il emploie pour y parvenir. Arsène Lupin, au contraire, est continuellement mêlé à des événements qui, le plus souvent, lui tombent dessus sans qu'il sache même pourquoi, et dont il doit sortir avec honneur, c'est-à-dire un peu plus riche qu'avant. Lui aussi se jette dans des aventures pour découvrir la vérité, seulement cette vérité il l'empoche. Cela ne signifie d'ailleurs pas qu'il se pose en ennemi de la société. Au contraire, il dit de lui-même « Si on me volait ma montre, je crierais au voleur ». Il est donc, par goût, sociable et conservateur. Seulement, cet ordre, qu'il juge nécessaire, qu'il approuve même, son instinct le pousse sans cesse à le bouleverser. Ce sont ces remarquables dons à barboter qui l'amènent fatalement à être malhonnête. Mais il est dans ses aventures un autre élément d'intérêt important et qui me semble avoir le mérite de l'originalité. Je ne m'en suis pas rendu compte non plus tout de suite. D'ailleurs, en littérature, on ne prévoit jamais ce que l'on doit faire. Ce qui vient de nous se forme en nous et nous est souvent une révélation à nous-mêmes. Il s'agit, dans le cas d'Arsène Lupin, de l'intérêt que présente la liaison du présent dans ce qu'il a de plus moderne, avec le passé, surtout historique ou même légendaire. Il ne s'agit pas de reconstituer des événements d'autrefois en les romançant, comme dans Alexandre Dumas, mais de découvrir la solution de problèmes très anciens. Arsène Lupin est continuellement mêlé à de tels mystères par le goût qu'il a de ces sortes de recherches. D'où cette série d'aventures d'Arsène Lupin où les faits sont contemporains mais où l'énigme est historique. Par exemple, dans l'île aux 30 cercueils, il s'agit d'un rocher entouré de 30 écueils. On l'appelle la pierre des rois de Bohême, mais personne ne sait pourquoi. La tradition prétend seulement qu'autrefois on amenait des malades sur cette pierre et qu'ils guérissaient. Arsène Lupin découvre qu'un navire qui apportait ce rocher de Bohême a échoué là du temps des druides, et que les miracles dont on parlait étaient dus au radium que contenait cette pierre. On sait en effet que la Bohême en est la plus grande productrice. Établir un roman d'aventure policière sur de telles données élève forcément le sujet. Et c'est une des raisons, j'imagine, qui ont concouru à rendre populaire et attachante la personnalité de ce Don Quichotte sans vergogne qu'est Arsène Lupin. Le Petit Var, samedi 11 novembre 1933. Ainsi s'achève « Qui est Arsène Lupin ?» par Maurice Leblanc.